Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique.
Décrypte de poésies.
Et la poésie alors?
Et la poésie alors?
Et la poésie alors?
And at 12 o'clock, with our luggage stowed and Montmorency unhappy and deeply suspicious in the prow, out we rowed onto the waters which were to be our home. We hoped up as far as Oxford, though the possibilities for digression along the Thames are infinite.
Bienvenue dans Et la poésie alors. Aujourd'hui, c'est un voyage sur l'eau qu'on vous propose. À Londres, sur le fleuve Tamise, comme disent les Britanniques. Et on part sur The River Thames en bonne compagnie. Avec Jérôme K. Jérôme, Michel Léris, Virginia Woolf et Paul Valéry. Tantôt à la surface du fleuve, tantôt le regardant de haut, pour mieux laisser son esprit cavaler, porté par les brumes.
Je me rappelle une fois sur la Tamise, où j'ai été terriblement renversé, au sens métaphorique s'entend. J'étais en canot avec une jeune demoiselle, ma cousine du côté maternel, et nous descendions à l'aviron vers Goring. Il se faisait tard, et nous avions hâte, elle du moins, d'arriver. Il était 6h30 quand nous passâmes l'écluse de Benson. Le soir commençait à venir et ma compagne s'inquiétait. Elle déclara qu'il lui fallait absolument être rentrée pour souper. Je lui affirmai que j'en avais également bonne envie, et je tirai de ma poche une carte pour voir à quelle distance exactement nous étions. Je vis que nous avions juste 2 kilomètres à faire pour atteindre la prochaine écluse, Wallingford, et encore 8 de là jusqu'à Cleeve. « Oh, tout va bien, » dis-je. « Nous aurons passé la prochaine écluse avant 7 heures et après, il n'en reste plus qu'une. » Et je me mis à ramer vigoureusement. Peu après avoir dépassé le pont, je demandai à ma compagne si elle voyait l'écluse. Non, elle ne voyait aucune écluse. Je me contentai de faire « A » et de pousser de l'avant. Au bout de 5 nouvelles minutes, je la priai de regarder encore une fois. « Non, répondit-elle, je ne vois toujours pas trace d'écluse. »« Vous êtes sûre, ma cousine, de reconnaître une écluse à première vue ?» lui demandai-je non sans hésitation, car je craignais de l'offenser. Mais ma question ne l'offensait pas du tout, et elle me proposa de regarder moi-même. Je déposai donc les avirons pour jeter un coup d'œil. Dans le crépuscule, le fleuve s'allongeait devant nous en ligne droite, sur l'espace de 1500 mètres. On n'apercevait pas l'ombre d'une écluse. « Ne croyez-vous pas que nous nous sommes égarés, dites ?» interrogea ma compagne. Je n'en voyais réellement pas la possibilité. J'insinuais néanmoins que, d'une façon ou d'une autre, nous avions pu nous fourvoyer dans le courant d'une dérivation, ce qui nous menait droit aux chutes. Cette perspective ne la rassura pas du tout, et elle se mit à pleurer. Elle affirma que nous allions être noyés tous les deux et que ce serait là son châtiment d'être venu en canot avec moi. Le châtiment me parut excessif, mais ma cousine n'était pas de cet avis et elle espérait, du moins, que notre fin serait prompte. Je tentai de la rassurer et de prendre l'aventure en riant. Il était évident, lui dis-je, que je ne ramais pas aussi vite que je le croyais, mais nous ne pouvions manquer d'atteindre bientôt l'écluse. Et j'avançais encore de 1500 mètres. Alors, je commençais à devenir inquiet moi aussi. Je consultai de nouveau ma carte, l'écluse de Wallingford s'y trouvait nettement indiquée, à 2 kilomètres en aval de Benson. Ma carte était bonne, on pouvait s'y fier. D'ailleurs, je me rappelais fort bien cette écluse, je l'avais franchie 2 fois. Où étions-nous? Que nous était-il arrivé? Je commençais à croire que tout cela devait être un songe, qu'en réalité, je me trouvais endormi dans mon lit et que j'allais me réveiller dans une minute et m'entendre annoncer qu'il était 10 heures passées. Je demandai à ma cousine si elle croyait que ce fût un songe, et elle me répondit qu'elle allait précisément me poser la même question. Et alors, cette perplexité nous envahit l'un et l'autre. Étions-nous endormis tous les deux? Et si oui, lequel de nous était le vrai personnage qui rêvait? Et lequel n'était rien qu'un songe? Cela devenait tout à fait intéressant. Cependant, je continuais à ramer, et toujours pas d'écluse en vue. Le fleuve se faisait de plus en plus sombre et mystérieux, sous les ombres croissantes de la nuit, et les choses prenaient un aspect étrange et surnaturel. Je songeais aux farfadets, aux feux follets, et à ces méchantes sorcières qui passent la nuit sur les rocs à guetter les voyageurs pour les séduire et les précipiter dans les tourbillons. Et je regrettais de n'avoir pas mené une vie plus vertueuse et ne savoir pas mieux mes prières. Au milieu de mes réflexions, j'entendis les bienheureux accords du refrain « Il les a bien attrapés » jouer fort mal sur un accordéon, et je compris que nous étions sauvés. Je n'admire pas, en règle générale, les accents de l'accordéon, mais ô combien alors sa musique nous parut belle à tous deux, infiniment plus belle que la voix d'Orphée, le luth d'Apollon ou tout autre instrument de ce genre. Une mélodie céleste dans notre état d'esprit n'aurait servi qu'à nous affoler plus encore. Une harmonie émouvante, correctement exécutée, nous l'aurions prise pour la voix d'un fantôme et tout espoir nous eût abandonné. Mais dans les accords de « Il les a bien attrapés », tirés à contre-temps et avec des variations involontaires d'un accordéon poussif, il y avait quelque chose de singulièrement humain et rassurant. Les doux sons se rapprochèrent et la barque d'où ils émanaient furent bientôt bord à bord avec nous. Elle contenait une société de joyeux provinciaux en route pour une partie de canot au clair de lune. Il n'y avait pas de lune, mais ce n'était pas de leur faute. Je n'ai de ma vie vu gens plus aimables et sympathiques. Je les hélai et les priai de m'indiquer le chemin de l'écluse de Wallingford, que je cherchais en vain depuis 2 heures. « L'écluse Wallingford ?» me répondit-on. « Dieu vous bénisse, monsieur, elle est supprimée depuis plus d'un an. Il n'y a plus d'écluse Wallingford, monsieur. Vous voici presque arrivé à Cleve. » Dis donc, Bill, c'est à crever de rire. Voilà un honorable citoyen qui cherchait l'écluse Wallingford. » Je n'avais pas songé à cette explication. Volontiers, je leur eusse sauté au cou, de joie. Mais le courant était trop fort à cet endroit-là pour me le permettre, et je dus me contenter de simples paroles de reconnaissance qui me parurent froides. Nous les remerciâmes à plusieurs reprises, ajoutant que la nuit était admirable et leur souhaitant bonne excursion. Je crois même que je les invitai tous à venir passer une semaine chez moi et que ma cousine leur dit que sa mère serait très heureuse de faire leur connaissance. Nous chantâmes « Le cœur des soldats » de Faust et en fin de compte, nous fûmes de retour chez nous à temps pour souper.
Thank you.
Les veilleurs de Londres. Au nord de la terre, il y a la mer. Au nord de la mer, il y a la terre encore. Londres te cloue de ses mille feux. Oh, brume des douleurs aiguës comme le chlore. Patience écrit le mot « silence » au front de tous les édifices. Mille bêtes très douces ont rampé dans la rue. Les hommes haussent leur col et passent, indifférents, devant les autobus fleuris de réclames et nourris du pain cramoisi des moiteurs. Le vent se souvenait d'une haleine lointaine. La Tamise égrenait lentement ses colliers. Au bout des rails trônaient les gares souveraines, chères aux déserteurs et aux désespérés. Étrangers, nous avons acheté de sanglantes cravates. Touristes, nous nous sommes promenés. Dans un bar de Limehouse, plus d'un verre s'est vidé. Ni les remous du fleuve, ni les pierres de la tour ne nous ont regardés. Mais l'homme rôde et danse. Coup de Browning auprès d'un réverbère, coup de grisou au fond d'une mine, coup de mer au pied d'un phare. Fendant l'air de son étrave, trouvera-t-il la fille au ventre bleu de froid et colorée comme une aurore ?
I was born to love no one, no one to love me. Only the wind in the long green grass, the frost in a broken tree. I was made to love magic, all its wonder to know. But you all lost that magic many, many, many years ago. I was born to use my eyes, dream with the sun and the skies, to float away in a lifelong song, in the mist where melody flies. I was made to love magic, all its wonder to know. But you all lost that magic many, many years ago. I was born to sail away into a land of forever, not to be tied to an old stone grave in your land of never. I was made to love magic, all its wonder to know. But you all lost that magic many, many years ago.
Le grand gel, nous disent les historiens, fut le plus sévère que nos îles eussent jamais connu. Les oiseaux gelaient en plein vol et tombaient au sol comme pierre. À Norwich, une jeune paysanne, robuste et pleine d'allant, comme à son ordinaire, entreprit de traverser la route et les témoins la virent distinctement s'effriter et s'envoler en un petit nuage par-dessus les toits, quand la bise glaciale la frappa au coin de la rue. La mortalité dans les troupeaux et le bétail fut énorme. Même les cadavres gelaient au point qu'on ne pouvait les décoller des plaques de glace. Il n'était pas rare de rencontrer tout un troupeau de gorées pétrifiées par le froid au milieu de la route. Les champs, était plein de bergers, de laboureurs, d'attelages et de jeunes garçons employés à chasser les oiseaux, tous figés sur le fait. L'un se tenait le nez, l'autre avait la bouteille aux lèvres, le troisième menaçait encore d'une pierre les corbeaux qui se tenaient, comme empaillés, sur une haie à un pied de lui. Mais, tandis que la population des campagnes endurait la dernière indigence et que le commerce du pays se trouvait suspendu, Londres connaissait des fêtes dont l'éclat ne fut jamais surpassé. Résidait à Greenwich, et le nouveau roi fit de son couronnement une bonne occasion d'acquérir la faveur des citoyens. Il ordonna donc que la Tamise, gelée jusqu'à une profondeur de 20 pieds et davantage jusqu'à 6 ou 7 milles dans les deux sens, fût balayée, décorée et qu'on lui donna l'aspect d'un parc ou d'un jardin de récréation avec gloriettes, labyrinthes, allées et stands de rafraîchissement, le tout à ses frais. Pour lui et ses courtisans, il réserva certain espace juste devant les grilles du palais, et cette enceinte, séparée du public par un simple cordon de soie, devint immédiatement le centre de ce que l'Angleterre comptait de plus brillant. De grands hommes d'État, avec leurs barbes et leurs fraises, dépêchaient les affaires publiques sous la tente écarlate de la pagode royale. Des soldats projetaient la conquête du mort et l'anéantissement du Turc sous des charmilles tendues de banderoles et empanachées de plumes d'autruche. Des admiraux arpentaient les allées étroites, longue vue en main, pour surveiller l'horizon et racontaient des histoires sur le passage nord-ouest ou sur l'armada espagnole. Les amoureux folâtraient sur des divans recouverts de zibelines. Des roses gelées tombaient en pluie chaque fois que sortaient la reine et ses dames de compagnie. Des ballons de couleurs planaient immobiles dans l'air. Ça et là brûlaient de grands feux de joie, de cèdres et de chênes, dont les flammes, sous le sel jeté à foison, se teintaient de vert, d'orange, de pourpre. Mais quelle que fût leur ardeur, ils ne pouvaient venir à bout de la glace, qui, bien que d'une singulière transparence, avait pourtant la dureté de l'acier. Elle était si limpide, en vérité, qu'on pouvait voir, congelés à plusieurs pieds de profondeur, ici un marsouin, là une plie. Des bancs d'anguilles gisaient dans une immobilité cataleptique, mais la question de savoir si elles étaient vraiment mortes ou seulement dans un état de vie suspendu que la chaleur ranimerait, embarrassait fort les philosophes. Près de London Bridge, là où le fleuve avait gelé jusqu'à une profondeur de 20 brasses, on distinguait clairement une péniche engloutie qui, surchargée de pommes, avait coulé l'automne précédent et gisait par le fond. La vieille marchande des quatre saisons, qui s'en allait vendre ses fruits sur la rive du Surrey, était toujours assise là, dans ses châles et ses vertus gadins, prête, eût-on juré, à servir un client sans le bleuter de ses lèvres qui laissait entrevoir la vérité. C'était un spectacle que le roi Jacques aimait tout particulièrement et il emmenait un groupe de courtisans pour le contempler avec lui. Bref, Rien ne pouvait surpasser l'éclat et la gaieté de ces lieux dans la journée. Mais c'était la nuit que la fête battait vraiment son plein, car le gel ne connaissait pas de trêve. Les nuits étaient d'une sérénité parfaite. La lune et les étoiles resplendissaient avec la dure fixité des diamants. Et sur la belle musique des flûtes et des trompettes, les courtisans dansaient.
L'expérience poétique. London Bridge. Je passais il y a quelque temps sur le pont de Londres et m'arrêtais pour regarder ce que j'aime, le spectacle d'une eau riche et lourde et complexe, parée de nappes de nacre, troublée de nuages de fange, confusément chargée d'une quantité de navires dont les blanches vapeurs, les bras mouvants, les actes bizarres qui balancent dans l'espace balles et caisses, animent les formes et font vivre la vue. Je fus arrêté par les yeux. Je m'accoudai, contraint comme par un vice. La volupté de voir me tenait, de toute la force d'une soif, fixée à la lumière délicieusement composée dont je ne pouvais épuiser les richesses. Mais je sentais derrière moi trotter et s'écouler sans fin tout un peuple invisible d'aveugles, éternellement entraînés à l'objet immédiat de leur vie. Il me semblait que cette foule ne fut point d'êtres singuliers, ayant chacun son histoire, son dieu unique, ses trésors et ses tares, un monologue et un destin. Mais j'en faisais, sans le savoir, à l'ombre de mon corps, à l'abri de mes yeux, un flux de grains, tous identiques, identiquement aspirés par je ne sais quel vide, et dont j'entendais le courant sourd et précipité passer monotonement le pont. Je n'ai jamais tant ressenti la solitude, et mêlée d'orgueil et d'angoisse, une perception étrange et obscure du danger de rêver entre la foule et l'eau. Je me trouvais coupable du crime de poésie sur le pont de Londres. Ce malaise indirect s'exprimait vaguement. J'y reconnaissais la saveur amère d'une culpabilité mal définie, comme si j'eusse commis quelque grave manquement à une loi cachée, sans aucun souvenir ni de ma faute ni de la règle même. N'étais-je point soudain retranché des vivants, quand c'était moi qui leur ôtais la vie ? Ces derniers mots, sur un air imaginaire d'opéra, se mirent à chantonner en moi. Il y a du coupable dans tout être qui s'écarte. Un homme qui songe, songe toujours contre le monde habitable. Il lui refuse sa part, il éloigne le prochain à l'infini. Ce port fumant, cette eau sale et splendide, ces pâles cieux dorés, souillés, riches et tristes, exerçait sur ma vie une puissance telle, une telle vertu de fascination que, perdu au milieu des trésors du regard, je devenais, frôlé de tous ces hommes pourvus d'un but, essentiellement dissemblable. Comment se peut-il qu'un passant, tout à coup, soit saisi d'absence, et qu'il se fasse en lui un changement si profond qu'il tombe brusquement d'un monde presque entièrement fait de signes dans un autre monde presque entièrement formé de significations ? Toutes choses soudain perdent pour lui leurs effets ordinaires, et ce qui fait qu'on s'y reconnaît tend à s'évanouir. Il n'y a plus d'abréviation, ni presque de nom sur les objets, mais dans l'état le plus ordinaire, le monde qui nous environne pourrait être utilement remplacé par un monde de symboles et d'écriteaux. Voyez-vous ce monde de flèches et de lettres ? In eo vivimus et moemur. Or, parfois, moyennant un transport indéfinissable, la puissance de nos sens l'emporte sur ce que nous savons. Le savoir se dissipe comme un songe, et nous voici comme dans un pays tout inconnu au sein même du réel pur. Comme dans un pays tout inconnu où se parle une langue ignorée, ce langage pour nous ne serait que sonorité, rythme, timbre, accent, surprise de l'ouïe. Ainsi, quand les objets perdent soudain toute valeur humaine et usuelle, et que l'âme appartient au seul monde des yeux. Alors, pour la durée d'un temps qui a des limites et points de mesure, car ce qui fut, ce qui sera, ce qui doit être, ce ne sont que des signes vains, je suis ce que je suis ce que je vois, présent et absent, sur le pont de Londres. Et la poésie alors, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez entendu des extraits de « Trois hommes dans un bateau » de Jérôme K. Jérôme, extraits également du long poème « Les veilleurs de l'ombre » de Michel Léris, suivi encore d'un autre extrait, cette fois du roman « Orlando » de Virginia Woolf, et enfin ce fut l'expérience poétique « London Bridge » de Paul Valéry. Toutes les informations bibliographiques sont reprises sur la page de « Et la poésie alors » que vous retrouvez en tapant www.radiopanique.org à la rubrique « Émission et la poésie alors ». Il me reste à remercier Philippe de Brabanter pour ses lectures, Bailo à la technique, et à vous dire merci et rendez-vous le mois prochain.
Feel dizzy, taxi light shines so bright.